se reconnaît en écologiste.
Les quotas de thon rouge.
Les OGM aujourd'hui ne servent à rien.
Il y a urgence à agir pour sauver la planète.
CO2.
Sans produits chimiques.
Mon amour.
Avec tous ces oiseaux à la con, ils sont 5 ans.
Denis Chessou.
Amis congelés au nord et un peu plus réchauffés au sud, soyez les bienvenus dans cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie et qui prend le temps de ne pas aller vite. Avec aujourd'hui Rémi Quincé, Pierrick Monsignet à la technique, c'est Marion Lelec à notre assistante, je n'oublierai pas Jean-Christophe Pinaza et Valérie Ayestaraï qui réalise l'émission. Une petite humeur dans mon jardin d'hiver. Oui, une humeur sport et botanique dédiée aux amoureux de la petite balle jaune à qui nous proposons de patienter. Et oui, en notre compagnie, en attendant donc le match de la Coupe Davis à l'heure de Belgrade. Notez qu'à Paris, on met aussi les petits plats dans les grands pour accueillir le gratin du tennis mondial dans un stade de Roland-Garros agrandi. Alors, quitte à exproprier bon, quelques fougères, orchidées, azalées, autres spécimens rares de collection installés dans le jardin des serres d'Auteuil depuis Napoléon III, vivent donc les internationaux de France de tennis botanique. Bref, vous me plantez un cours de tennis, 5000 spectateurs au milieu des arbres centenaires et des verrières, quelques pancartes quand même marquées attention fragile et vivent donc ces fameux internationaux nouveau look. En février prochain, la Fédération Française de Tennis donnera son avis sur ce projet qui donne des boutons aux élus verts de la capitale. Mais pour l'instant, tout va bien. La Commission de la Nature, des Paysages et des Sites de Paris vient de renvoyer les opposants au projet dans leur filet. Dommage parce que Paris a vraiment une vraie politique d'espace vert qui est assez exemplaire. Avantage au sport business et service à suivre. Deuxième petite info, message à l'intention des parents inquiets pour la santé de leur progéniture, adeptes du cheeseburger, ketchup, frites coca. Eh bien, d'après l'enquête de l'association Génération Future, détrompez-vous, la menace numéro un, ce n'est pas la malbouffe, mais plutôt ce qu'on pourrait appeler la pestibouffe. On a détecté pas moins de 80 produits chimiques dans les 5 fruits et légumes quotidiens. Vous me direz, on est tous des mutants. Bon, steak haché élevé aux pesticides ou miettes de thon farcies au PCB. Et tenez, pour les fêtes cette année, le saumon fumé et son cocktail exclusif de 34 résidus chimiques, ce sera très tendance. Et on termine par notre feuilleton Noël en novembre, 60 cm dans le Cotentin, moins 15 degrés à Orléans et plus 19 au Groenland. Et oui, cherchez les horreurs. Alors si vous ne croyez toujours pas au changement climatique, rendez-vous à Cancon. Et oui, Cancon, c'est la capitale de la noisette, c'est pressé dans le Lot-et-Garonne où se tient aujourd'hui un contre-sommet sur le climat, la vie après le pétrole et tout le reste. Parce que au rythme où vont les sommets de l'ONU sur le climat, nos amis groenlandais pourront bientôt cultiver des clémentines corses ou bien se réfugier dans un stade de foot du Qatar de 50 000 places entièrement climatisé au pétrole à l'occasion d'une future Coupe du Monde. Alors, menu unique aujourd'hui, et oui, on aime bien la diversité, mais là, en fait, on va voir un seul sujet, vous allez comprendre pourquoi dans CO2, mon amour. Pour vous, les futurs champions de l'espérance de vie, on va tâcher aujourd'hui de regarder un peu plus loin avec notre invité, donc qui est Pierre Radan, et nos étudiants qui nous rejoignent d'un peu partout. Alors, je tiens à préciser que cette émission a été enregistrée parce qu'elle devait passer donc un jour de grève, mais ça change vraiment rien au propos. Miroir de la jeunesse, mon beau miroir, dis-moi, tu le vois comment cet avenir et surtout comment y répondre. Donc, si jeunes étudiants qui ont entre 19 et 22 ans, qui sont intéressés par l'environnement parce que la version Starac et Koh-Lanta on n'a pas pris, qui se posent des questions sur leur avenir, c'est-à-dire climat, énergie, paix dans le monde, comment vais-je organiser ma vie demain au 21e siècle? On avait fait naître cette idée il y a 3 ans et cette formule avec vous, Pierre Radan, dans cette émission. Je rappelle que vous êtes expert climat-énergie, vous êtes consultant aujourd'hui, vous êtes ancien président de l'ADEME et puis vous êtes aussi négociateur pour les pays africains sur le climat. Et donc aujourd'hui, bien sûr, vous êtes à Cancun. Pourquoi souhaitiez-vous en fait répondre à ces jeunes?
Parce que j'ai écrit un bouquin il y a quelques années et je me suis aperçu qu'en fait, personne n'aime le 21e siècle. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa couleur de peau, on choisit pas son pays, on choisit pas son siècle. Et construire une vie, c'est aimer son siècle. On peut pas faire autrement que d'aimer son siècle. Et moi, j'ai une fille qui est un petit peu plus vieille qu'eux, donc je dois aimer le siècle de ma fille. Et qu'est-ce qu'on voit de ce siècle? C'est qu'il est très très différent des deux précédents. Cette génération va connaître un changement de civilisation. Le dernier, c'est l'entrée dans la société industrielle à la fin du XVIIIe siècle. Et imaginez les uns les autres que vous êtes nés en 1760, un monde génial de Marquis Poudré, monarque absolu, un monde très stable. Et qu'est-ce que vous allez vous gauler dans votre vie ? L'invention de la machine à vapeur, le début de l'extraction des combustibles fossiles, l'entrée donc dans la société industrielle, le papier monnaie, les droits de l'homme, la République, l'abolition de l'esclavage, la découverte de l'électricité, la compréhension de la chimie et de la physique moderne, l'invention du bateau à vapeur, du chemin de fer, l'arrivée de la pomme de terre. Et si vous avez une vie longue, en 1840, au moment de la fin de votre vie, tout a changé. Les mœurs ont changé, les technologies ont changé, le système politique a changé. Vous allez être dans une fenêtre de l'histoire équivalente à ça. Et donc, le boulot le plus important à faire d'une génération comme la mienne, c'est de vous tendre la main et de vous aider à imaginer ce que c'est que de réussir une vie dans cette énorme transformation que vous voyez autour de vous. Et donc, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et c'est sur cette image forte de ce changement de civilisation que je voudrais vous interpeller. Et comment vous vivez ça, vous, personnellement ?
Ils sont là, ils vont donc vous poser des questions donc à Pierre Radan, au téléphone ou bien dans ce studio. Voici M. Il y a le père a bien fait de se reproduire. Ben oui, il y a quand même du talent dans l'air là aussi avec M. Mystère. Il était d'ailleurs hier soir M à Montpellier. Johnny Hallyday donc l'a rejoint, oui, pour chanter une chanson. Et oui, c'est comme ça. Nous allons vous tendre la main, Marie Bonnefond. Vous êtes étudiante en deuxième année de l'école vétérinaire à Toulouse. Donc je le rappelle, hein, on ronde des étudiants et vous posez des questions à Pierre Radan. Donc première question. Bonjour Marie.
Bonjour. Pierre parlait là de changement de civilisation. Moi, j'ai une question d'ordre assez général à ce sujet, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, c'est vraiment indispensable d'agir quand même assez rapidement et de façon concertée pour lutter justement contre le réchauffement climatique. Et pourtant, avec des événements comme le sommet de Copenhague, finalement, il ne ressort rien. Donc j'aimerais savoir, Pierre, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on puisse encore espérer qu'il va y avoir l'apparition de mesures fortes au niveau national ou international? Ou alors, est-ce qu'il faut admettre qu'il y a uniquement des initiatives individuelles, locales, sur lesquelles on va pouvoir compter, et que ce changement de civilisation va passer sur un changement de mentalité uniquement au niveau individuel? Et est-ce que ça pourrait être suffisant pour lutter contre le réchauffement climatique?
La question est très précise. Qu'est-ce qui s'est passé à Copenhague ? Copenhague est un événement considérable parce que c'est la fin d'un monde. On ne peut pas résoudre le changement climatique dans l'égoïsme des États-nations. C'est pas possible. On va devoir, pour stabiliser le climat, avoir l'accord de tous les pays. Le climat qu'on a en France n'est pas fait par les Français. Il est fait par l'action de tous les peuples du monde. Et donc vous êtes, avec cette question du changement climatique, devant la première question à solidarité obligatoire de l'histoire humaine. On va être obligé de résoudre ça tous ensemble. Alors, quel est le problème qu'on a ? Bah, bien évidemment, c'est qu'on se retrouve avec toutes les inégalités dans le monde héritées du 19e et surtout du 20e siècle. Et donc là, les pays en développement, et je suis dans les délégations africaines, les pays en développement disent... Vous vous êtes industrialisé avec les combustibles fossiles. Les pays émergents, ils ont d'ailleurs suivi le même chemin, avec les Chinois, par exemple, le charbon. Et puis nous, pays pauvres, on peut plus faire ça. On n'a plus le droit maintenant. Bon, alors, quel est le chemin de développement pour nous ? Donc, vous voyez que la question qui est posée à Copenhague, qui va prendre des décennies probablement pour en trouver réponse à ça, c'est quel est le nouveau chemin de développement pour tous les peuples de la Terre, et que ça va être bien évidemment la condition de la paix dans le parcours de vie qui va être le vôtre. C'est les actions de chaque personne, de chaque collectivité locale, de chaque entreprise qui vont faire qu'on va pouvoir réduire ou pas ces émissions de gaz à effet de serre.
Mais plus que des États, nous dit Marie, parce qu'elle dit, elle parle bien effectivement d'action individuelle. Elle ne croit pas tellement à l'action des États, où elle voit que c'est assez divisé. Donc.
Oui, mais il va falloir un moment qu'on organise aussi des règles de solidarité entre pays. Donc il faut que ça fonctionne des deux côtés. Et la négociation climat, alors là, soyez vraiment persuadés de ça, va totalement changer le système politique dans ce siècle. On est obligé de gouverner la planète tous ensemble.
Pierre Châtelon, étudiant en troisième année à Agro Paritech, je vous en prie.
Oui, donc on voit que la conférence de Cancun semble être un peu mal partie, ou en tout cas va pas changer radicalement par rapport à ce qu'on a pu voir à Copenhague. Quelles vont être les prochaines étapes et qu'est-ce qu'on va pouvoir en attendre, autant sur les discussions entre États? Est-ce que ce qu'on n'a pas pu avoir à Copenhague, ce qu'on n'aura sûrement pas à Mexico, est-ce qu'on pourra l'avoir dans les dizaines d'années qui vont venir? Ou alors est-ce que, plus sur des questions de transfert de technologie, on va pouvoir aider les pays en développement, tant pour l'atténuation que pour l'adaptation?
Pour faire bref, la négociation dans son aspect global, en ce moment, est totalement plantée. Elle est plantée parce que les pays n'ont pas tenu parole dans la réduction de leurs émissions et que les Américains sont complètement coincés, y compris sur les questions d'acceptation d'un traité international. Donc, tout le travail à Cancun va se faire par le bas. C'est faire en sorte que tous les pays aient accès à des technologies, montent des projets et accès à des financements internationaux pour que se construisent par en bas, par les sociétés, un scénario de réussite. Mais ça va prendre plusieurs années pour faire émerger ça. Et vous le savez, on peut pas arrêter la négo. Au sens, il y a un compte à rebours contre nous, et plus on va faire les choses tard, plus ça va mal se passer. Donc aujourd'hui, il faut vraiment avancer. Il faut avancer en France. Et vous savez, la France n'est quand même pas un pays inintéressant là-dessus. La France est le premier pays au monde à avoir dit il faut que chaque territoire fasse un plan climat. Parce que c'est sur le terrain que la bataille va se gagner.
Un plan climat, donc, c'est une obligation pour les communautés de plus de 50 000 habitants, donc oui, d'élaborer oui, ce fameux plan climat.
D'ici 2012.
D'ici 2012. Thibault Le Sueur, alors là, vous êtes, vous, étudiant à Sciences Po, master sciences et politiques de l'environnement. Question à Pierre Radan.
Oui, bonjour. Une première remarque, c'est par rapport à votre discours, que je trouve différent de ce qu'on peut entendre, parce qu'il est optimiste, en fait. Et c'est agréable d'entendre quelqu'un qui n'est pas fataliste et qui dit, oui, il y a des solutions, c'est dur, mais il faut prendre un peu le taureau par les cornes et y aller. C'est vrai que dans le discours ambiant, et à chaque fois, plus on en apprend, plus on se rend compte qu'on est finalement un peu mal barré.
Le pessimisme est une lâcheté.
J'aurais une question à propos des ressources, parce qu'on parle beaucoup de ressources différentes, qu'elles soient renouvelables ou pas. En termes d'énergie, à propos des ressources type pétrole, uranium, donc tous les combustibles qui sont aujourd'hui utilisés massivement, Et finalement, quelle est la limite? Jusqu'à quand peut-on les utiliser? Ou du moins, jusqu'à quand seront-ils disponibles dans des prix raisonnables pour le consommateur? C'est-à-dire, quand est-ce que va s'arrêter finalement la consommation de masse des énergies fossiles au vu des ressources de la planète?
L'affaire est plus grave que ça. Il reste la moitié du pétrole en terre. Les générations qui vous ont précédé se sont tirées avec le pétrole liquide sans impureté qui jaillissait tout seul et près d'un port.
Donc le plus facile.
Et on vous a laissé des pétroles dégueulasses dans des endroits innommables et des conditions d'extraction très difficiles.
Cool.
Et donc vous allez être confronté au prix du pétrole bien avant la rareté du pétrole. Alors c'est grave, pourquoi? Parce que c'est injuste socialement. Vous allez avoir un énorme risque que les pays pauvres par rapport aux pays riches, ou chez nous, les ruraux par rapport aux urbains, vont être confrontés à des prix des carburants qui vont être très différemment supportables par les uns et les autres. Donc plus on tarde, plus on va vers un drame social.
Et vous l'estimez éventuellement à combien de temps à peu près ce drame social?
Bon, écoutez, les choses vont arriver assez vite parce que vous savez que cet été, il y a eu l'accident de BP. Les trois quarts du pétrole qu'on découvre aujourd'hui, c'est du pétrole offshore. Et on était très fiers d'aller chercher du pétrole sous 5000 mètres d'eau. Le problème, c'est qu'on ne sait pas réparer. Bon. Et donc, on va être obligé de mettre beaucoup plus de protection, beaucoup plus de redondance de systèmes techniques. Et donc, ça va devenir plus cher. Puis les assureurs vont bien évidemment se border. Mais si vous voulez, il faut, dans cette discussion, se dire il faut réussir ce siècle. Et donc économiser l'énergie, développer les énergies renouvelables notamment, repousse l'échéance. Vous voyez bien que c'est dans cet état d'esprit qu'il faut être. Il faut éviter que ce siècle soit violent et il a plus de risques que les précédents de l'être.
Nous allons maintenant partir en Haute-Savoie qui est saupoudrée et très largement de neige pour rejoindre Julien Tarbouriech qui est étudiant en licence, alors en maîtrise des énergies renouvelables et électriques à l'Université de Savoie, à l'IUT d'Annecy. Julien, bonjour, c'est à vous.
Bonjour à tous. Donc oui, moi ma question ça serait en fait, à l'heure d'aujourd'hui, on voit de plus en plus de nouvelles technologies qui prennent de plus en plus de confort dans l'habitat et tout pour tous les citoyens. Donc en fait, ma question ce serait, ne faudrait-il pas revenir à la deux chevaux en termes d'économie d'énergie?
Ah.
Alors écoutez, ça sert absolument à rien d'avoir une bagnole dont la vitesse de pointe est le double de la vitesse autorisée. Hein. Sachez que si vous avez une voiture dont la vitesse de pointe est 220, vous consommez en ville le double d'une voiture dont la vitesse serait plafonnée à la vitesse autorisée. Notre système de transport est bien évidemment parmi les choses qui, dans votre vie, vont le plus changer. Les voitures qu'on a aujourd'hui, c'est goujaterie 20e siècle. Mais par contre, sur la partie domestique, puisque vous aviez parlé de ça, vous savez bien qu'aujourd'hui, les choses ont énormément avancé. À chacun de vous six, hein, on sait vous promettre une maison qui sera suffisamment isolée avec des appareils suffisamment performants que vous aurez une vie domestique satisfaisante dans votre vie sans consommer de combustible fossile, sans émettre de gaz à effet de serre. Parce qu'on est capable de faire fonctionner la maison où vous habiterez vers 2030 les uns et les autres uniquement avec l'énergie qu'elle tirera de son environnement. C'est-à-dire qu'on est là sur la partie domestique, non pas dans un monde de restrictions. Il faudra faire attention, bien sûr, à son comportement. Mais on a la solution. Par contre, sur les transports, ça va être beaucoup plus difficile.
Thibault Lesueur, réaction?
Oui, alors effectivement, si pour l'habitat, ça semble faisable, est-ce que ce genre de discours n'engendre pas une dérive scientiste qui consiste à dire bah, « c'est pas grave, de toute façon, la science réglera le problème, on trouvera des solutions, qu'importe le temps ».
Bonne remarque. Il faut à la fois comprendre qu'on a besoin de technologies. On a besoin d'une organisation très différente de la société, y compris en termes d'urbanisme, etc. Et on a besoin de comportements individuels. C'est l'alliance des trois qui est le scénario de succès. On ne peut pas résoudre toutes ces questions-là uniquement par une approche technique.
Pierre Châtelon.
Donc là, on parle de changement de comportement. C'est souvent vu comme beaucoup d'interdits. Comment, selon vous, on peut faire prendre conscience aux gens que changer les comportements, ça peut apporter du mieux vivre, ça peut être bénéfique pour leur vie de tous les jours?
Alors là, vous êtes sur la question fondamentale de votre vie. Il y a un énorme risque que la prise en compte de la rareté des ressources, du fait que vous aurez dans votre vie à fêter, alors vous faites tous un nœud à votre mouchoir, hein, 2050, fin de la croissance démographique humaine. Vous serez 10 milliards. Il faudra avoir fait la place pour 10 milliards. dans tous les domaines. Hein. Et puis, vous avez cette horreur de changement climatique. Alors, vous voyez, vous avez inévitablement là une image qui est celle d'un monde qui se ferme, qui est un monde plein de contraintes et qui vous tombe dessus. Si on en reste à cette image-là, il y a énormément de risques que l'on sorte, je dirais, de solutions démocratiques. Hein, et avec des tentations d'appel à un despotisme éclairé, on ne peut pas tout régler, donc il faut serrer les gens, etc. Et moi, je ne suis pas du tout sur cette ligne-là. Je voudrais vous interpeller sur quelque chose que vous vivez, mais qu'il faut intégrer dans la discussion. Vous avez tous un téléphone portable, vous avez tous Internet. Et vous savez qu'avec cet Internet et ces téléphones portables, vous avez accès, vous aurez accès, si vous le voulez, dans votre vie, à plus de personnes, à plus de cultures, à plus d'expressions culturelles, y compris la vôtre, que toutes les générations cumulées qui vous ont précédé. Et ce que je voudrais vous dire, et ça c'est vraiment pour moi quelque chose de tout à fait fondamental, il y a un infini dans le monde fini. C'est-à-dire qu'on est dans un monde qui est limité sur les ressources. La planète, elle n'est pas infinie. Elle a des limites qui sont celles. Et puis, votre génération va être la première qui va devoir se marier avec sa planète et qui va devoir organiser la vie de l'humanité sur cette planète pour des siècles et des millénaires avec un stock, je dirais, existant de matières premières et un environnement dont vous allez totalement dépendre. Et si vous le bousillez, bien évidemment, c'est les conditions de vie de l'ensemble de l'humanité que vous êtes foutu en l'air. Mais vous avez un infini là-dedans. La relation à l'autre, la culture, l'art sont des infinis. Donc, si vous voulez, la grande épreuve de votre vie, c'est un deal. Pas un deal perdant, parce que si le deal est perdant, vous n'irez pas, vous refuserez, et vous auriez raison.
Alors le gagnant-gagnant, qu'est-ce que c'est ?
Le gagnant-gagnant, c'est une vie qui va, de votre part, si je puis dire, ressembler à un yaourt allégé de bonne qualité, moins de calories, c'est clair, davantage de goût. C'est qu'il faut que vous ayez une balance entre une expansion de votre personnalité, une réalisation de vous-même, à travers notamment tous les nouveaux moyens techniques qui existent, mais surtout la relation personnelle, la relation à l'autre. C'est ça qui fait le sel de la vie humaine. Et puis de l'autre côté, résoudre les problèmes d'environnement, résoudre les problèmes techniques, et parce que ça va être la condition de la paix.
Alors je vous propose une petite pause pour déguster donc le fameux yaourt allégé. Continuez à venir vous réchauffer tranquillement à la parole de Pierre Radan et de nos jeunes. On poursuit ce voyage vers l'avenir. Et dans le portable dont Pierre a parlé, et bien il y a des CD aussi.
Si tu te fiches de la nature et que tu veux continuer à consommer sans réfléchir tout ce que la pub veut te faire avaler, mais vas-y, on croit en toi et en l'avenir. CO2, mon amour. Oh, Denis chez Sou, mais calmez-les.
So your hometown's bringing you down. Are you drowning in the small talk and the chatter? Are you gonna step into line like your daddy done? Bunching the time and climbing life's long ladder. You've been howling at the moon like a slack-jawed fool and breaking every rule they can throw. And go and stay gone. Young man, full of big plans and thinking about tomorrow. Young man, gonna make a stand, you beg, steal, you borrow. You beg, you steal, you borrow. Well, all the friends that you knew in school, they used to be so cool, now they just bore you. Well, look at them now, already pulling the plow, so quick to take to grain, like some old mule.
beg, steal your ball. You beg, you steal your ball. Gonna pack your bags, put the miles away. Oh, just grab your girl and go where no one knows you. What will all the old folks say? So the hometown's bringing you down. Oh, you're drowning in the small talk and the chatter. Are you gonna step into line like your daddy done? Punching the dime and climbing life's long ladder. Young man, full of big plans and thinking about tomorrow. Young man, gonna make a stand. You beg, steal, you borrow. You beg, you steal, you borrow.
Très agréable ça. Alors ses parents l'ont baptisé Raymond Charles Lamontagne. Il s'est dit je ferai jamais une carrière avec ça, donc il a raccourci Ray. Ray Lamontagne, c'est quand même pas mal non plus. Sophie Cahen, vous êtes future ingénieure, disons-le, en dernière année de l'école centrale de Paris, avec une option environnement matière vivante. Ça fait toujours sourire l'option, parce que maintenant c'est quand même quelque chose de fort, enfin c'est ainsi. Donc question à Pierre Adan, Sophie.
Oui, bonjour. Justement, vous parliez de solidarité obligatoire, de conditions nécessaires pour la paix, de gouverner tous ensemble, etc. J'aurais justement aimé vous demander, finalement, quels sont vos conseils pour non seulement une carrière, mais aussi une vie qui soit porteuse de sens et d'engagement dans tous les défis qu'on a à relever, qui soient... on parle d'échecs, pénurie, rareté, renoncement, tout ça. Comment trouver du sens et du rêve dans tout ça?
Écoutez votre siècle. Comprenez-le et aimez-le. Il faut que vous soyez inscrit dans l'histoire de votre époque. Toute génération doit faire ça. Toute génération est forcément en discontinuité avec la génération précédente. Toute génération doit comprendre les défis qui sont les vôtres. Vous voyez bien que vous êtes dans une économie mondialisée dans laquelle il faut que chaque peuple trouve son chemin de développement. Que vous, il faut que vous trouviez une expression de vous-même qui soit singulière, qui soit différente de celle du voisin. Que vous arriviez à enrichir votre personnalité et en faire quelque chose, je dirais, de bigarré, de luxuriant, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là, et que vous soyez actif dans votre époque. Comprenez que si ce siècle reste obscur, c'est-à-dire si on ne le pense pas, si on ne le désire pas, si on ne le construit pas, si ce siècle est obscur, il a de grands risques d'être obscurantiste. Hein, qu'il y ait un recul, qu'il y ait une montée de la violence. Et elle n'est pas très très loin de nous, la violence.
À laquelle on assiste déjà.
Et voilà, voilà. Donc il faut arrêter ça. Il faut se mettre dans un chemin où votre génération prend en main son époque. Et il faut bien sûr que vous soyez très exigeant sur les générations qui sont empilées en dessus de vous. Elles vous doivent le fait de vous aider à réussir ce siècle. Vous êtes dans une pliure de l'histoire considérable, équivalente à la sortie de la chute de Rome, équivalente à la sortie du Moyen-Âge, équivalente à l'entrée dans la société industrielle. Vous devez faire la paix avec votre planète, avec l'humanité tout entière, et construire un développement solidaire avec, bien sûr, tous les épanouissements possibles que donnent aujourd'hui les moyens de démocratie. Vous devez être partie prenante des décisions de votre époque.
Mais justement, excusez-moi, mais est-ce que ça peut se faire démocratiquement et en douceur toutes les pliures de l'histoire que vous évoquez avant, ça s'est fait dans la douleur quand même.
Oui, mais ce que disent les historiens, c'est que oui, bien sûr, les changements sont toujours difficiles parce qu'on n'y voit pas clair. Et puis vous avez des intérêts d'un côté, des intérêts de l'autre, tout ça c'est très difficile. Mais ce que disent les historiens, c'est qu'on arrive à résorber la violence quand l'image du monde d'après devient claire dans la tête de tout le monde. Donc il faut imaginer, il faut désirer ce siècle. Et c'est ça qui va le pacifier. Et il faut le faire au plan mondial. Alors, au niveau de la démocratie, écoutez, les choses sont simples. L'humanité peut tout. L'humanité peut tout. Et donc, on n'est pas aujourd'hui dans une fatalité d'un compte à rebours qui est perdu d'avance. Nous sommes dans la capacité de résoudre les problèmes, mais il faut s'y mettre maintenant. Et en tout cas, la négociation climat, elle montre cette déchirure et cette exigence de tous les peuples d'arriver à vivre dans de bonnes conditions.
Alors, un sixième étudiant, c'est Louis Castera, qui est étudiant en troisième année de licence professionnelle sciences et techniques des énergies renouvelables à l'université Paul Sabatier à Tarbes. Bonjour Louis.
Bonjour Denis et bonjour Monsieur Adam. Vous avez parlé aussi de changement de comportement et en vue du changement climatique et de l'épuisement des ressources fossiles. Pensez-vous qu'en France, il y ait une réelle politique, une réelle volonté politique de développer ces énergies renouvelables, ou est-ce simplement pour ne pas se faire pénaliser par l'Union européenne si on ne tient pas nos objectifs en 2020? Et justement, au niveau européen, avec l'objectif des 3x20, pensez-vous que c'est un objectif réalisable, peu ambitieux ou même utopique?
Écoutez, je pense que les choses sont quand même en train de changer dans un pays comme la France et dans d'autres pays. Est-ce que ça va suffisamment vite? Bien évidemment pas. Mais pas uniquement de la faute, je dirais, du gouvernement et de la faute des politiques. Je dirais aussi, chacun de nous-mêmes est assez facilement ambivalent. On comprend ces choses-là et on change pas aussi rapidement nos comportements qu'il ne le faudrait. Les psys sont des gens utiles là-dessus. Les psys nous expliquent que, bien évidemment, cette affaire de changement climatique ou les limites sur les ressources, c'est quand même plutôt une mauvaise nouvelle. Et donc, un citoyen normalement constitué a plutôt tendance à se carapater face aux mauvaises nouvelles. Et ça se comprend. Oui. Et donc, ce qu'ils nous disent, c'est que il faut passer, je dirais, de l'angoisse à l'action. Hein, toutes ces choses-là sont des choses angoissantes. Et l'angoisse est le contraire de l'action. On se replie sur soi. Et donc, il faut qu'on dépasse l'angoisse et qu'on aille vers l'action. Alors, bien évidemment, tout ça, il y a des conditions. Il faut qu'on voit des engagements autour de soi. Il faut qu'on ait la connaissance du sujet. Il faut qu'on comprenne quelles sont les actions dans sa vie que l'on peut faire. Une famille française moyenne, c'est 17 tonnes de CO2. Elle ne le voit pas, ça baisse quand même 17 tonnes. Bon, il faut savoir où ils sont, ces 17 tonnes. Il y en a 4 dans le chauffage, il y en a 4 dans la bagnole. Donc il faut s'approprier tout ça. Et puis, il faut bien évidemment que les collectivités publiques mettent cette impulsion. Et c'est notamment ce qui est engagé en ce moment avec les plans territoriaux. Mais il faut que les gens y participent, se mettent en mouvement. Et à ce moment-là, on fera ce grand virage. Mais entendez bien que ce grand virage va occuper l'essentiel de votre vie.
Thibault Lesueur.
Vous participez à beaucoup de plans locaux, etc. Et vous parlez des actions du gouvernement. Quelles sont selon vous finalement les priorités? Parce qu'on est dans un monde qui est économiquement limité, du moins dans ce système. Donc les ressources, disons, financières allouées à la transformation de la société dans tous les domaines est limitée. Donc est-ce que selon vous, il y a des priorités? Et finalement, la question qui est un peu corollaire et cachée derrière tout ça, c'est est-ce qu'on peut le faire en restant dans le système tel qu'il existe aujourd'hui, le système financier tel qu'il existe aujourd'hui? Ou est-ce qu'on a aussi besoin, dans l'ensemble de la révolution, d'un changement complet de système qui sorte finalement de cette vision uniquement capitaliste du marché?
Alors on va de toute façon changer de système parce que il y a plein de coûts cachés qu'on prend pas en compte, les ressources naturelles qu'on prend pas en compte dans le système actuel. Il y a effectivement une frénésie par rapport à l'argent et on le voit avec la crise financière de façon criarde, d'une façon très violente depuis 2-3 ans. Et en même temps, vous avez des gisements d'une meilleure efficacité qui sont absolument considérables. La France balance entre 40 et 50 milliards d'euros par la fenêtre chaque année pour acheter du pétrole, du gaz, de l'uranium ou du charbon. Vous comprenez que si on isole les logements, qu'on développe les transports collectifs ou qu'on développe les énergies renouvelables, c'est de l'argent et c'est du boulot qu'on garde chez nous. Bon, et donc il faut aller chercher tous ces gisements d'amélioration de l'efficacité de notre société pour que les gens aient de bonnes conditions de vivre. Donc vous allez être d'une génération qui va alors pratiquer de façon extrêmement intensive le recyclage. Vous serez assisté, y compris par de l'électronique, sur la manière d'économiser l'énergie dans votre vie. Vous voyez, la valeur fondamentale du 21e siècle va être l'optimisation d'utilisation des ressources. Vous serez 10 milliards, il faut que les ressources de la planète vous en fassiez le meilleur usage possible. Ça va être les conditions de la cohésion sociale et la condition de la paix. Bon, et donc ça va rentrer dans votre manière d'être, et de ce point de vue-là, c'est un changement complet de système. Vous voyez que on va abandonner un libéralisme débridé pour venir vers une régulation qui va être la gestion collective de la planète et qui va être la nouvelle
donc
valeur de votre siècle.
Donc ça passera par plus de régulation, cette affaire.
Ah bah oui, on va gérer la maison commune ensemble.
Donc il faut attendre que tout le monde se mette d'accord pour changer le système, ça va être une révolution, ça va être lent, parce que c'est toujours le problème de la gouvernance mondiale qui est posé là sur ce problème.
N'oubliez pas que votre génération n'a plus droit à la guerre totale, y compris le terrorisme, vous le voyez bien. C'est-à-dire que les armes de destruction que l'humanité a malheureusement construites empêchent la guerre. La guerre devient interdite. Ou alors si elle a lieu, voyez le chaos dans lequel ça va vous basculer. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est bien d'avoir une vision mondiale, rassemblée, et de chercher des technologies. Et vous êtes, un grand nombre d'entre vous, des ingénieurs. Rendez-vous compte à quel point on va avoir besoin d'ingénieurs dans ce siècle pour aider chaque peuple, avec les moyens et les conditions qui sont les siens, d'offrir à sa population des bonnes conditions de vie.
Alors avant, un petit tour de table finale, Pierre Châtelon, donc AgroParisTech. Alors,
un des aspects du siècle qui vient, on peut penser que ça va être l'augmentation du nombre de réfugiés climatiques, donc soit des gens qui devront quitter les îles où ils habitent parce qu'elles auront été submergées, aussi des gens dont l'alimentation aura été rendue compliquée parce que la fréquence des sécheresses s'accroissant, leurs agricultures leur fourniront difficilement leur alimentation. Est-ce que ça n'implique pas des nouveaux modes de solidarité internationale? Et quelle place les habitants des pays développés auront dans cette solidarité?
Vous êtes, encore une fois, je le disais au tout début, vous êtes la première génération qui va être devant un enjeu de solidarité obligatoire. Et donc il va falloir effectivement aider à la stabilisation de ces populations. Il va bien évidemment falloir qu'on accueille ces gens qui vont être déplacés, et en tout cas dans des solutions de proximité. Vous savez, l'enjeu considérable est du côté agricole. N'oubliez pas que 80% des agriculteurs dans le monde cultivent à la houe, sans traction mécanique, sans traction animale. Donc le développement de l'agriculture dans le monde est une nécessité. Il ne peut pas y avoir de paix sans accès aux agricultures les plus pauvres à de meilleures conditions de travail.
Alors que des grands groupes rachètent aujourd'hui des terres arables un peu partout.
Oui, alors là, vous comprenez bien que c'est criminel. La stabilisation, notamment de l'Afrique et de l'Inde au niveau alimentaire, va être une des nécessités absolues.
C'est au de mon amour, Denis Chessou.
Ça commence comme un rêve d'enfant. On croit que c'est dimanche et que c'est le printemps. Toi et moi, on s'en va regarder le soleil sous les branches et puis parler de toi.
Toi et moi,
si tout change. Ça ressemble à un rêve d'enfant. On croit que c'est dimanche et que c'est le printemps. La radio donne enfin des nouvelles, nouvelles, et nous parle enfin un peu de toi. Si tout change. Tu verras.
comme un rêve d'enfant. On croit que c'est dimanche et que c'est le printemps.
Oui, c'était une belle comédie musicale, avec des paroles d'Étienne Rodagil. C'était donc sur la guerre d'Espagne, donc Julien Clerc. Tour de table finale avec vous, Julien Tabouriège. On vous retrouve à Annecy, l'IUT d'Annecy. Comment vous projetez-vous dans ce sujet? Comment l'appréhendez-vous?
Disons que je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour remplacer totalement les énergies fossiles par les énergies renouvelables. On le voit bien qu'il faut développer de plus en plus ces énergies-là dans le but de limiter les émissions de CO2 et le réchauffement de la planète. Mais cependant, comme on disait, quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'énergie solaire. Quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'éolienne. Donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, la seule vraie énergie qu'on a et qui marche sans, on va dire 100% sans cesse, c'est l'énergie nucléaire, surtout en France. Et donc je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire avant qu'elle puisse être remplacée dans sa totalité.
Alors c'est peut-être intéressant, ça, on ne l'avait pas abordé, mais le nucléaire, votre sentiment?
J'essaye de penser monde. Et le nucléaire n'est pas une énergie pour tout le monde. Et puis les ressources en uranium ne sont pas si limitées que ça. Je serais en faveur du nucléaire, parce que je suis très très inquiet par rapport à ce siècle, je serais en faveur du nucléaire si je lisais ou j'entendais à France Inter le matin en me réveillant que l'homme d'un seul coup est devenu ange et qu'il n'est plus démon. Moi, résoudre le problème énergétique en mélangeant ça avec des armes de destruction massive, je trouve pas ça totalement génial. Et heureusement, on a d'autres manières de faire.
Oui, Castera, à Tarbes, pareil, même question. Ce qui vous porte aujourd'hui, peut-être vos inquiétudes, mais aussi ce qui vous porte dans ce 21e siècle.
Pour moi, en fait, ça serait... donc, on voit bien tous, en fait, que l'énergie stock, donc les énergies fossiles, en fait, on voit bien leur épuisement. Effectivement, le développement des énergies renouvelables va bientôt, d'ici quelques décennies, devenir une nécessité, en sachant tout à fait qu'elles ne peuvent pas remplacer dès aujourd'hui toutes les énergies conventionnelles, mais elles peuvent, je pense, suppléer l'énergie produite et enrichir la gamme des énergies exploitées à l'heure actuelle. Donc effectivement, nous commençons à apercevoir quelques solutions alternatives, éoliennes, photovoltaïques et biomasse, entre autres. Mais voilà, il faut faire un grand développement sur ce point-là.
Thibault Lesueur.
Moi, je vois finalement que ce siècle, effectivement, on a beaucoup de travail devant nous. Et finalement, c'est une bonne chose. Ça évite l'errance et l'ennui. Mais je pense vraiment, effectivement, de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que c'est vraiment un mouvement qui doit venir de la base des citoyens. Et je crois que c'est aussi à notre rôle de chacun d'entre nous qui sommes un petit peu préoccupés par ces questions, de mobiliser autour de nous, à travers des associations, à tous les niveaux, essayer un petit peu, dans tous les domaines, de faire évoluer la mentalité des gens sur la consommation, mais surtout aussi, finalement, le rapport aux autres. Dans le métro, c'est assez typique de voir les gens qui sont renfermés sur eux-mêmes, que dire bonjour, on passe pour un extraterrestre. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts déjà à faire sur la base, des choses simples, qui ne nécessitent pas d'argent, qui nécessitent juste, finalement, un petit peu d'humanité, et un petit peu de reconnaissance de l'autre.
J'ajouterais à ça, faites des instruments dont bénéficie votre génération, Facebook, Twitter, etc., faites-en des instruments de démocratie. Parce qu'il faut que vous changiez, que vous preniez votre vie en main, mais il faut aussi que vous interpelliez l'ensemble de la société et que vous fassiez masse dans la prise de décision dans cette société sur l'ensemble des transformations qu'il va devoir faire. Vous avez des instruments considérables pour ça.
C'est-à-dire que Facebook est très bien pour faire des apéros géants, mais peut aussi avoir d'autres fonctions.
Oui, c'est-à-dire qu'il faut que cette génération mette des jalons dans ce qui doit être les points de passage dans ce siècle pour qu'elle réussisse sa vie dans ce siècle, et donc qu'elle s'approprie les instruments démocratiques qui lui permettent de se faire entendre. C'est fondamental. Il ne faut pas avoir de ce siècle une approche uniquement technicienne.
Marie Bonnefond, qui nous a écoutés tout à fait patiemment et qui avait très bien aussi ouvert ce débat, dont je le rappelle, à l'école vétérinaire de Toulouse en deuxième année.
Oui, alors moi, ce que j'aurais surtout voulu retenir des interventions de Pierre Radan, c'est son optimisme que j'ai apprécié et cette notion de solidarité obligatoire qu'il a développée, et le fait aussi que je pense que cet optimisme est également obligatoire et qu'il faut peut-être arrêter de dire que à partir du moment où aucune décision n'est prise pour l'instant au niveau des industries, au niveau mondial, au niveau international, on ne peut pas faire changer les choses. Je pense que c'est pas vrai et qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup d'initiatives qui se développent au niveau local et que tant qu'on n'aura pas autre chose, oui, il faut se contenter de ça, mais il faut y croire et continuer à les développer vraiment.
Merci à vous Marie, Sophie Cahen, Ma vie dans mon siècle, vue par une future centrale, pas par une centrale, mais une future ingénieure, pardon.
Je retiendrai, j'ai aussi beaucoup aimé que la solidarité maintenant est obligatoire, c'est plus une option, que le pessimisme est une lâcheté, j'ai beaucoup aimé et malheureusement on en voit beaucoup autour de nous. Mmh. Il y a d'énormes défis, de grandes opportunités, on en est tous conscients, donc on se demande tous ici, c'est pour ça qu'on est là, comment rendre notre engagement efficace et porteur de sens, et aussi... conditions nécessaires pour la paix. La paix, c'est...
C'est la clé.
C'est la clé. Mmh. Et la paix, c'est une condition nécessaire pour agir et sera la conséquence de l'action. Donc, tout ça est très emmêlé. D'ailleurs, mes propos ne sont pas clairs.
Non, mais sachez bien que personne ne vient du futur. Et que la seule chose que les générations qui sont en-dessus de vous puissent faire, c'est vous tenir la main. C'est poser avec vous les éléments de cette immense transformation dont vous allez être les acteurs au premier rang, et puis construisez des belles personnalités.
Justement, vous disiez pour passer de l'angoisse à l'action, il faut aimer, désirer le monde d'après.
Oui.
Il ressemble à quoi, selon vous, ce monde d'après, si on devait l'imaginer aujourd'hui? Faites-nous rêver un peu.
Écoutez, faire rêver, c'est difficile. Vous êtes sur une planète qui est la seule occupable dans le coin. Il n'y en a pas de réserve sur l'étagère. Bon. Et comprenez qu'à la fin du XXe siècle, les gens qui étaient dans les pays industrialisés, ça n'était qu'un milliard d'habitants. Bon. Vous serez 10 vers le milieu de ce siècle. Donc l'humanité finit sa croissance démographique pendant votre vie. Vous vivez avec le stock de ressources de cette planète et vous construisez une nouvelle page de l'histoire humaine qui est cet équilibre, ce mariage de l'humanité avec sa planète. Alors peut-être après ça, il y aura peut-être d'autres grandes aventures, mais en tout cas, pour l'instant, c'est ça. Et donc, vous êtes devant une exigence d'énormes progrès démocratique et de réunification de l'ensemble de la communauté humaine. Si vous avez à faire le même changement que le suffrage universel au moment où on est entré dans la société industrielle. Vous êtes devant un défi de la même nature. C'est une affaire tout à fait enthousiasmante, mais il faut que vous ne sous-estimiez pas à quel point le vieux monde, je dirais, va se débattre, va traîner des pieds avec les intérêts des entreprises et des États dans ces discussions-là. Donc le processus de changement va être compliqué. Et puis je vous le disais tout à l'heure, construisez de belles personnalités. La stabilisation du monde et la construction d'un parcours pour l'humanité nécessite que chacun vous soyez équilibré, satisfait de vos vies à travers ce que vous allez construire au niveau de vos expressions personnelles et avec votre entourage. Donc si vous voulez, c'est la question éternelle de l'humanité qui est celle, je dirais, du bonheur individuel et qui est celle de l'inscription dans une vie collective. Vous allez prendre votre place dans la cohorte humaine après les autres et puis vous aurez des culture bigarrée avec l'ensemble des apports de tous les peuples du monde auxquels vous avez merveilleusement accès aujourd'hui.
Pierre Radan, comment se fait-il aujourd'hui que nos dirigeants n'aient pas vraiment ce discours, c'est-à-dire qu'on ne l'entend pas, ce discours nous fait extrêmement de bien, que l'on soit jeune, étudiant, adulte, auditeur de France Inter, je suis sûr que beaucoup de gens vous écoutent avec pas mal de délices, mais on a peu de gens qui tentent de tracer une perspective comme celle-là.
Je connais énormément de responsables politiques. Ils sont scotchés dans le présent, et ils sont scotchés dans le présent avec toutes les déchirures qui sont déjà en train de se faire. Et la mondialisation de l'économie et son impact sur le social, on le sent aujourd'hui sur la question des retraites et de la protection sociale, les questions d'environnement qui sont compliquées, les questions de transfert de richesses d'un endroit à l'autre du monde, et le politique est scotché dans ces transformations aujourd'hui. Et le politique a un beau métier. Son but, c'est d'éviter la violence. Et donc, ce métier-là je dirais, l'attache au présent et l'empêche d'être dans la construction. Bien évidemment, fait partie de la solution de tout ça, la capacité politique à un moment d'avoir une nouvelle promesse à l'humanité. Et on n'arrivera pas à résoudre ces difficultés sans construire une nouvelle promesse. C'est ça qu'il va falloir faire. Et ce que nous disent d'ailleurs les historiens, c'est que dans les changements de civilisation, les politiques sont un peu à la ramasse entre nous. Les gens qui sont utiles, c'est les philosophes et c'est les artistes. C'est-à-dire, les philosophes nous expliquent quelles sont les nouvelles valeurs, les changements considérables de vision du monde qui sont en train de se faire. Et puis les artistes, traditionnellement les romanciers, peut-être maintenant les vidéastes, hein, les artistes qui mettent dans des vies personnelles singulières ces nouvelles valeurs, ces transformations. Et c'est quand les gens arrivent à voir, à projeter dans le futur quelle va être leur vie réussie, c'est à ce moment-là que les gens peuvent basculer pour quitter l'ancien monde et aller dans le monde d'après. On ne peut pas faire autrement. On n'abandonne pas ce qu'on a pour rien. Oui. Hein. Donc on est dans cette situation-là et il va falloir bien évidemment un moment où le politique se mette dans la construction de la promesse, que le politique se mette à aimer le 21e siècle et pas à rêver de refaire le 20e.
Merci à vous Pierre Adam et puis donc merci à vous qui avez posé ces questions. Problème compliqué, solution compliquée, il ne s'agit pas de faire reposer toute cette histoire que sur les individus, on sait que ça ne marche pas. Une part de comportemental, une part d'organisationnel, donc là ce sont les hommes politiques. Et puis aussi bon, une part de technique et de science, mais qui ne nous sauveront pas si on attend uniquement là-dessus. Voilà, ça donne, bah, je crois que ça donne effectivement une autre manière de regarder ce monde aujourd'hui. On va passer à notre dernière séquence.
L'agenda de CO2 Mon Amour.
Avec le journaliste Claude-Marie Vadreau qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Des fraises en hiver », mais on s'est rendu compte que pas mal de personnes ne savaient pas forcément quels fruits et légumes de saison choisir. Voilà, donc on va ouvrir notre panier en osier, bien sûr. Et dites-nous en cette fin novembre, début décembre, Claude-Marie Vadreau, ce que l'on peut trouver sur les étals.
Contrairement à ce qu'on peut penser, il y a le choix hein, au mois de novembre. Bon, il faut oublier les asperges blanches ou vertes du Pérou, oui. Hein, qui ont un terrible décalage horaire sur le dos. Les tomates du Sénégal, les tomates cerises essentiellement. Et puis les framboises, les dernières, qui arrivent de Floride après un long voyage fatigant. Donc, si vous voulez vos...
Cinq fruits célèbres, et légumes.
Ah oui, bien sûr. Oui, on précise jamais les quantités. Hein. Eh ben, vaut mieux se tourner vers les pommes, les poires, les marrons, ceux qui viennent des Cévennes, par exemple. C'est les plus proches. Hein, cher à votre cœur, hein, ceux des Cévennes, même si on les appelle des châtaignes là-bas. Ils sont tous garantis de saison.
Il y a le kiwi.
Ah oui, le kiwi, quand il ne vient pas de Nouvelle-Zélande.
D'accord.
Parce que là, il est en saison décalée, mais il y en a partout en France. Ça pousse très bien. Moi, j'en ai dans mon jardin qui sont en ce moment absolument parfaits. Qui mûrissent.
Dans le Loiret, vous êtes
dans le Loiret. Les kiwis, ça pousse partout en France. Il n'y a pas besoin d'aller chercher si loin. Alors, côté légumes, bah, il y a la mâche, hein, et puis le chou de Bruxelles.
Ah oui.
Et le chou de Bruxelles, bon, on peut le cuire. Il y a des gens qui redoutent l'odeur, mais on peut le hacher comme ça finement, le manger en salade. C'est absolument délicieux avec de l'huile de pépins de raisin.
Ouais.
Et puis, ça a un petit goût de noisette. Autre fruit de saison, la noisette qui se gâte pas du tout. Bon, évidemment, au mois de novembre, il y a le Beaujolais nouveau.
Oui,
boire avec d'autant voulez, hein. plus oui, de oui, modération oui. Que s'il est bien de saison depuis qu'il a été inventé. on peut se demander comment le vignoble du Beaujolais peut en produire autant.
Ah oui.
C'est un véritable miracle.
Bah oui.
Et bah, comme beaucoup de fruits de saison, c'est un miracle commercial.
Ah, bien sûr. Merci à vous, Claude-Marie Vadreau. On vous retrouvera le mois prochain pour aussi ouvrir ce panier. Merci à Anne Gouzon qui a nourri les sites de CO2 Mon Amour, à Marion Lelay, Jean-Christophe Pinaza, Valérie Ayestara et Denis Chessou. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un homme qui sera rédacteur en chef. Il s'appelle Yannick Jolin. Vous le connaissez peut-être. On parlera de semences paysannes, de plaques de déchets dans le Pacifique, avec Jean-Marie Pelt aussi, de panneaux publicitaires. Voilà. L'actu du Mont-Petit-Loup, je vous retrouve demain à 19h54 après les petits bateaux. On va au théâtre ?